nos différences.
Sur votre émission, il est l'heure, Monseigneur. Alors, c'est une émission en direct aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel pour nous. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour et bonjour aux milliers d'auditeurs.
Bonjour Josiane.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour Jacqueline.
Bonjour à vous toutes et tous.
Et bonjour Marc.
Bonjour, bonjour.
Bon, aujourd'hui on va faire sans Ricardo, si ça vous ennuie pas. Il nous a fait faux bond, mais c'est pas grave. On va essayer de remplir l'émission sans lui. Voilà, tant pis pour lui.
S'il écoute, on pense à lui.
Voilà,
bien sûr.
On t'embrasse Ricardo. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va essayer de trouver un couple mystère. Alors cette semaine, c'est un couple qui va être de votre génération, au chroniqueur.
Il y a très laquelle jeune.
Bah, entre 7 et 99 ans.
Ça va, la fourchette est large.
C'était 7 et 17, le journal de Mickey.
Bon, dans tous les cas, avant de lancer le premier morceau, je te propose, Marc, de nous faire la première petite phrase de l'heure.
Oui, bien écoutez, ce que je vous propose, c'est une phrase qui me tient à cœur, parce que je suis dans le mouvement du bénévolat, c'est « Si le bénévolat n'est pas payé, ce n'est pas parce qu'il ne vaut rien, mais parce qu'il n'a pas de prix ».
À bon entendeur.
Bravo, voilà. J'applaudis. Ouais.
Et ça veut dire qu'il faut rappeler combien on a besoin de bénévoles actuellement également.
Bien sûr.
Bon, on se retrouve tout de suite après la première chanson, une chanson de Claude Nougaro, À bout de souffle. À tout de suite.
Quand j'ai rouvert les yeux, tout était sombre dans la chambre. J'entendais quelque part comme une sonnerie. J'ai voulu bouger, aïe la douleur dans l'épaule droite. Tout à coup me coupa le souffle. Une peur affreuse m'envahit et mon corps se couvrit de sueur. Toute ma mémoire me revint, le hold-up, la fuite, les copains qui se font descendre. Je suis blessé mais je fonce et j'ai le fric. Je glissais la main sous l'oreiller, la mallette pleine de billets. Et dès là bien sage, 200 briques. Somme toute, ça pouvait aller. Mon esprit se mit à cavaler sur et ma planque chez Suzy. Et bientôt à nous de la belle vie. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie, une radio s'est mise à déverser, un air de piano a tout cassé. Je connaissais ce truc, c'était le blue rondo à la turtelle, Boubette jouait comme un fou, aussi vite que moi mettant les bouts. Soudain la sonnerie du téléphone, mon cœur fit un bond, je pris le récepteur, allô c'est Suzy, ça fait deux fois que j'appelle. Qu'est-ce qu'il y a, y'a un garde flic au coin de la rue, je restais sans voix, j'étais foutu, il faut que tu filmes, me dit-elle, descends pas sans toi par les doigts. Bon Dieu, encore les flics, vite le fric, et puis l'escalier de service, 4 à 4, 1, 20. Ta s'était ouvert sur les étoiles et me revoilà faisant la malle parmi les antennes de télé. Ce pognon je ne l'aurais pas volé 30 mètres plus bas dans la rue du Colisée. C'était la cohue. J'en peux plus, j'en peux plus. J'ai couru comme dans un rêve le long des cheminées. Ah, le temps, la mallette à la main, je vacillais. Sur un toit s'amorçait un escalier d'incendie.
je descendis jusqu'en bas et me voici à trois pas d'une sortie sur la rue. Quelle rue je ne le savais plus, mais tant pis, je suis sorti et tout de suite je les ai vus. Quatre flics au bout de la rue, pas de panique, j'ai reconnu le bar du Living, j'y suis entré. La boîte était pleine comme un œuf, deux ou trois jazzmen faisaient le bœuf. Je brûlais de fièvre, je voyais les murs, les bouteilles qui tournaient. Puis quelqu'un m'a saisi par le bras, je me retournais, Suzy était là toute pâle, elle me souriait, de nouveau le soleil a brillé. Dans un souffle, elle m'a dit, viens, j'ai la voiture tout près d'ici, nous sommes sortis, mais devant moi, un poulet a crié, ne bouge pas, avec la mallette, je l'ai frappé, alors le coup de feu a claqué, me clouant sur place. Oh Suzy, t'en fais pas. Je te suis, on y va. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie, toute la vie, toute la vie.
C'était donc Claude Nougaro avec la chanson À bout de souffle. Alors ça vous parle un petit peu, tu avais un petit commentaire Jean-Jacques?
Non, ce que je disais, c'était une chanson qui était une reprise d'un morceau de jazz de Dave Brubeck avec Paul Desmond, et ça s'appelait Blue Rondo à la turque.
Bon, eh ben c'est pas l'indice du jour.
Oh bah zut.
Alors l'indice, c'est À bout de souffle, mais À bout de souffle, c'est le titre de la chanson, mais c'est aussi le titre d'un film.
D'un film,
voilà.
Oui.
Donc c'est le film où le couple mystère s'est rencontré. Et Jean-Jacques, ça y est, l'a déjà trouvé.
Bah oui.
Jacqueline aussi.
Je crois.
Bon bah on confirme tout à l'heure. Je voulais commencer cette émission avec vous, avec la Légion d'honneur. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la Légion d'honneur. Qu'est-ce qui ferait qu'on la mérite et qu'est-ce qui ferait qu'on devrait ne plus la mériter? Je pose la question parce que c'est en lien avec Monsieur Mystère qui nous a fait un petit truc un peu curieux et on en reparlera tout à l'heure. La Légion d'honneur, qu'est-ce que ça vous inspire? Ah bah c'est tout.
Bah, excusez-moi, c'est en direct. Hein.
Oh là là.
Ben moi, alors Monsieur Mystère, c'est pas qu'il l'a refusé.
Non, il l'a reçu. Voilà.
Il l'a reçu, mais pour son père. C'est bien ça?
Non, il l'a reçu pour lui-même. D'accord. Pour tout ce qu'il a fait.
Alors, c'est pas le personnage auquel je pensais.
Ah oui, moi aussi je pensais.
Oui. JP.
Voilà.
Ah bah voilà. Bon bah c'est pas Jean, c'est pas Godard.
Je sais pas.
Voilà.
Bon moi
ce
je
n'est
pense
pas
que
Godard.
JPB.
JPB? C'est qui JPB? Jean-Pierre Papin?
Non.
Non, je connais pas JPB.
Alors, je vois pas À bout de souffle là, je.
Oui. Allez. Bah, les auditeurs, ils ont besoin de...
La Légion d'honneur, bon, c'est un titre honorifique que beaucoup de personnes mériteraient et qu'ils n'ont pas, et que d'autres ont eu et qu'ils ne méritaient peut-être pas.
Mais avant, c'était pour les faits de guerre, non?
Oui. Bah, il me semble.
Militaire, c'était Napoléon qui a fait ça.
Exactement.
Bah oui.
Non, mais sur le principe, moi, je trouve que c'est intéressant parce que être connu au nom de la nation, c'est intéressant parce que c'est aussi dans le vécu collectif d'un peuple, des gens qui habitent un pays, être connu par une distinction. Après, c'est les critères. Quels sont les critères?
Voilà, c'est ce que
les critères
dire.
Pour accorder la fameuse Légion d'honneur.
C'était ça. Josiane, ma question.
Oui.
Mais est-ce qu'on va être sincère? Parce qu'en fait, si on aime bien le personnage, mettons si c'est un chanteur ou un acteur, oui, et qu'on l'aime bien, on dit oh ouais, il le mérite. Oui. Alors qu'en fait, il le méritera pas plus qu'un autre acteur et tout ça qu'on n'aimera pas.
Oui. Donc je veux dire. Alors bah, ça fait partie du problème. Est-ce qu'un acteur mérite une Légion d'honneur?
Un acteur, un chanteur, un artiste.
Mais l'idée, c'est pas que.
Est-ce qu'il faut quelque chose de national pour justement justifier cette attribution?
D'un autre côté, si ça enlevait le côté militaire, c'est peut-être pas plus mal.
Moi, je crois que c'était l'idée. Enfin, je l'ai entendu quelques fois. C'est l'idée de reconnaître quelqu'un qui a compté pour la France, enfin
oui,
qui a donné une bonne image de la France. Voilà, donc après, ça peut être pris dans tous les domaines. Pourquoi pas un chanteur, pourquoi pas.
Après, je trouve qu'il y a une certaine inéquité entre les personnalités, parce que les championnats du monde de foot, oui, ils vont être récompensés et pas dans d'autres disciplines.
Oui, oui, ça d'accord. Moi, je trouve.
Voilà.
Oui, c'est pour ça que c'est quand même un peu.
Ils auraient dû inventer quelque chose d'autre pour les footballeurs ou tout comme ça, plutôt que la Légion d'honneur.
Je sais pas, est-ce qu'un footballeur mériterait une
décoration particulière?
Il y a d'autres décorations. T'as le mérite agricole, t'as les palmes académiques, on en parlait tout à l'heure.
Bien sûr, mais si tu voyais, par exemple, au niveau de la, tous les noms qui ont reçu la Légion d'honneur, ça part de quelque chose de vachement important, de vachement comme pasteur, ou je sais pas, je sais pas, je sais pas s'il y a eu, à des gens qui ont sorti deux ou trois tubes en chanson.
Ou le, le premier astronaute, des choses comme ça, bon, bah, d'accord, mais...
Mais alors, il faut être parrainé, d'après ce que j'ai compris, ou faut le demander? Non, faut pas la demander.
Ah non, je pense pas.
Alors, il faut être
d'accord.
Il faut être recommandé ou prescrit. Après, le président, il peut prescrire par lui-même.
Hein. Oui, c'est ça. Oui. Oui, parce que c'est lui le grand maître.
Oui,
je pense. Il est président, il a l'échelon.
Bah, c'est lui qui décore.
Mais dans la Légion d'honneur, de toute façon, il y a différents niveaux aussi.
Joker.
Il y a chevalier, il y a...
Ah oui, il y a des grades.
Oui,
il y a des
grands maîtres, hein. Grand maître, hein, je ne sais pas quoi.
Alors, tout dépend si tu es au bas de l'échelle ou si tu es en haut de l'échelle.
Et alors, bon, on va aller sur le couple mystère, mais qu'est-ce que vous penseriez de quelqu'un qui a eu la Légion d'honneur et qui se fait naturaliser dans un autre pays?
Vaste sujet. Non,
on lui enlève.
C'est une logique que tiendraient beaucoup de personnes, effectivement.
Ah oui, oui, oui. Ouais, je trouve que...
Mais c'est ce qui m'a un petit peu interpellé sur
Monsieur
Mystère.
Oui, ça doit récompenser quand même au titre national.
C'est quand même très lié à la...
Ça a toujours un lien avec la bout de souffle.
Alors oui, ça a toujours un lien avec la bout de souffle, puisque le couple Mystère s'est rencontré sur le tournage du film en 1960.
Il s'est rencontré sur le tournage, c'est ça l'idée.
Voilà.
Non, parce que en dehors de Belmondo et de Jeanne Seberg...
Bah oui. C'est ce que j'allais te dire.
Mais je veux dire que je vois pas le... Parce que Godard, lui, Anna Karina jouait pas dedans.
Non.
Eh ben non. Eh ben, pour une fois, ils vont sécher un petit peu. Et en direct, s'il vous plaît.
Oui. Là, t'es content, hein.
Raphaël est content.
Non, parce qu'il faut que j'explique aux auditeurs quand même qu'à chaque fois, au bout du premier indice, ils ont déjà trouvé. Et donc, on fait patienter, mais là,
Godard était déjà suisse.
Oui.
C'est un suisse.
Bon.
Ça va cogiter sec, hein, dans les ménages. C'est moi qui vous le dis.
Allez. Parce qu'on va pas trouver, non.
Ouais. Je vous propose une seconde petite pause musicale avec une chanson de Jacques Higelin et la croisade des enfants. Allez, je me fais plaisir aujourd'hui en programmation musicale. À tout de suite.
Pourra-t-on un jour vivre sur la terre sans colère, sans mépris, sans chercher ailleurs qu'au fond de son cœur la réponse au mystère de la vie? Dans le ventre de l'univers, des milliards d'étoiles naissent et meurent à chaque instant, où l'homme apprend la guerre à ses enfants.
Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour êtres humains rire aux larmes de leur peur, enterrer les armes, écouter leur cœur qui se bat pour la vie.
Trop sérieux
les grands, assez grands pour la vie. Je suis trop petit.
C'était Jacques Higelin avec la croisade des enfants. Alors l'indice, il est un petit peu vicieux de ma part, hein, parce que le problème, c'est que Madame Mystère n'a pas eu d'enfants précisément. Donc c'est quelque chose qui peut vous mettre sur la piste. Et elle a dévoilé le mois dernier sur la 5 le fait qu'elle n'ait pas eu d'enfants suite à un IVG clandestin. Voilà, elle a eu une relation à l'âge de 17 ans avec un homme de 40 ans et elle a été, on va dire, à l'époque où c'était pas encore légalisé, eh bien, elle a subi un IVG un petit peu sauvage. Mmh. Voilà, donc
qui a fait beaucoup de dégâts.
Ouais. C'est une actrice.
C'est une actrice et elle a témoigné le mois dernier sur la 5 dans l'émission C'est à vous si je dis pas de bêtises et elle expliquait justement que l'IVG dans la Constitution lui semblait un moyen de protéger les personnes. On a un A de l'autre côté.
Bah non, Macha Meryl.
Est-ce qu'elle a des enfants? Alors voilà.
Ça, je sais pas. Elle a subi un.
Mais elle a rencontré qui?
Bah justement.
Alors voilà, bon bah on est sur une piste, on va voir si c'est la bonne, on va voir après.
Bravo Jacqueline.
Attends, c'est pas sûr.
Bon,
parce que Macha Meryl, elle a rencontré Michel Legrand. Bon, parce qu'ils se connaissaient depuis longtemps.
Oh, ils se connaissaient, c'était depuis des lustres.
On est sur la piste là. Je pense que je l'ai vu, elle est sur la 5, témoigner.
Ça chauffe.
On chauffe un peu, on est tiède chaud, on va voir si à la suite c'est le bon indice, on va voir. Donc Macha Meryl à ma gauche, Macha Meryl tout droit, Macha Meryl à ma droite.
Et Macha Meryl, elle a joué dans À bout de souffle?
Non, j'ai pas trouvé.
Eh ben non.
Bah alors c'est pas ça.
J'ai pas dit qu'elle avait joué dans un bout de
souffle. Non, on a pas dit qu'elle a joué.
Ils se sont rencontrés.
Pourquoi elle était là-bas?
Eh ben parce que
elle n'a pas fait la musique.
Ben non, mais parce que Jean-Paul Godard c'était Jean-Luc Godard, c'était le producteur du film et voilà, ça a dû travailler hein. Bon, allez. On va faire travailler Jean-Jacques en attendant. Jean-Jacques, je crois que tu voulais nous parler de vieilles émissions radio.
Vieilles émissions radio. Je vous avais prévenu lors de mes dernières interventions pour évoquer ces anciennes émissions. Et ces anciennes et anciens chroniqueurs et chroniqueuses, animateurs, animatrices dans nos transistors d'antan. Que ce serait dans un joyeux désordre, pas de chronologie aucune, du grand n'importe quoi parfois, comme pas mal de fois, c'était les prestations de ces joyeux et joyeuses luronnes.
Bon, on remettra dans l'ordre hein, de toute façon.
Ouais. Bon, joyeuses pour ce qui va suivre, pas vraiment. Geneviève Tabouy. Alors là,
on a perdu Josiane.
On parle de l'ancêtre des actuels chroniqueurs radio de la géopolitique, tels Piraski, Bernard Guetta, Alba Ventura, Thomas Legrand ou Vincent Hervouet.
Mais prends l'accent là.
elle ne fut pas une résistante, car elle partit très tôt en Amérique. Mais elle ne cessa de mettre en garde contre la montée d'Adolf Hitler et le réarmement allemand. Le diplomate grec Nikolaos Politis lui dit « Vous avez intérêt à rester alerte, Madame Tabouy. Sinon, on va commencer à vous appeler Cassandre. » Adolf Hitler lui-même l'attaque dans son discours du 1er mai 1939 avec un commentaire sarcastique au bordel. C'est en direct, hein?
Ben oui, monsieur.
Madame Tabouy, la plus intelligente des femmes, c'est ce que je vais faire avant que je sache moi-même, c'est ridicule. Elle se fait connaître de la France entière sur l'antenne de Radio Luxembourg, par ses chroniques politiques des années 50 et 60, les dernières nouvelles de demain, qu'elle entame invariablement par sa célèbre phrase fétiche « Attendez-vous à savoir !» relayée par « J'ai appris !» ou « J'ai encore appris !» et « Vous saurez !» Elle conclut tous ces éditoriaux à Radio Luxembourg d'un « Au revoir, mesdames et messieurs, et à dimanche prochain pour les dernières nouvelles de demain ». Oui, c'est vraiment une époque ancienne dont je vous parle. Cette dame aux allures d'Agatha Christie, Miss Marple, nous a quittés très âgée en 1985.
Geneviève Tabouille, les dernières nouvelles de demain. Mesdames, messieurs, attendez-vous à savoir, à propos des inquiétudes du Kremlin sur l'évolution de la situation au sud-est asiatique, j'ai appris.
Bon, maintenant, une première et toute petite approche des loufoqueries de Pierre Dac. Vous vous doutez bien que
autre pouvoir.
On y reviendra.
C'est pas le même genre.
Son œuvre sur les ondes, notamment ses sketchs avec son complice Francis Blanche, nous ont bien souvent amusés, et ce pendant des années. Pierre.
Je vous rappelle la liste des objets que notre ami Pierre Dac vient de vous communiquer et que vous devez lui rapporter ce soir. Un chapeau haut de forme, un quart de bonbon anglais déjà à moitié sucé, une statue de la République sur son socle, une bicyclette, une écharpe de mer, une pipe en sucre. Une paire de gants blancs auxquels il manquera un doigt, un code civil ouvert à l'article 44. Enfin, les concurrents devront porter la moustache.
Oh, c'est génial.
Pas mal, hein.
Oh, j'adore.
C'est l'article.
C'est un autre genre quand même, hein.
Ouais. Alors là, c'est encore différent. Radio 37 était une station de radio généraliste privée française diffusée en région parisienne du 5 septembre 1937 au 13 juin 1940. Ben oui, Radio 37 se tait le 13 juin 1940, date de l'entrée de la Wehrmacht dans Paris, et s'aborde ses installations techniques à Rueil-Malmaison. Donc, Maurice Chevalier inaugure cette station radio privée à sa manière. C'est savoureux, mais augure pas mal de l'ambiance de cette époque. Le ciel gronde au loin, les loups ne sont plus loin de Paris.
Au quatrième top, il était exactement midi.
Bonsoir, monsieur dame. Il y a de la joie ?
Il y a de la joie, merci.
Ah, dites donc, Radio 37 m'a demandé de parrainer, si j'ose dire, leur nouveau poste de radio. Oui, enfin, de le baptiser, quoi, comme on baptise des navires qui prennent la mer pour la première fois. Alors attention, messieurs, dames, chers auditeurs, une petite minute de recueillement pour la cérémonie. Je l'embrasse. Là. Là, écoute, petit micro, tu vas être bien gentil avec les auditeurs, hein. Tu leur donneras toujours des bonnes nouvelles. Et puis pendant quelques temps, ben, vas-y mollement avec les émotions. Parce que tu sais, ben, des émotions, on en a eu assez pendant un moment comme ça, hein, ça suffit. Et puis alors, pas de parasites, enfin le moins possible, quoi. Et puis écoute, alors, rends tous les auditeurs heureux si tu peux, hein. T'as compris? Allez, encore une bise. Là, ça y est, Radio 37 est baptisé.
C'est à nous.
Et c'est tout pour aujourd'hui.
Merci Jean-Jacques.
Oh, c'était excellent.
Bon, c'est de la radio d'antan, hein, effectivement. Et on n'imaginait pas le pouvoir qu'on pouvait avoir derrière un micro à ce moment-là.
Enfin, Ah, mais c'était extraordinaire. Enfin, moi, je sais que mon père, personnellement, il écoutait la radio du matin au soir.
Et on n'avait pas la télé.
Mais on n'avait pas de télé, donc toutes les émissions étaient extrêmement intéressantes. Et
après, effectivement, le nombre des médias fait que ça se focalise plus ou moins sur un individu. Madame Tabouille, oui. Aujourd'hui, je ne sais pas si elle aurait la même audience auprès de Poutine.
ça m'étonnerait.
Ouais. Mais bon.
Non, mais par contre, moi, je me suis un petit peu documenté hein, pour dire ça, mais je veux dire que elle a rencontré pas mal de gens. Elle était invitée vraiment d'honneur de la famille royale en Angleterre. Hein.
Oui, je pense quand même qu'il y avait des...
Elle n'ouvre pas la bouche pour ne rien dire. Mmh.
Non, par contre, il faut parler plus près du micro, Josiane. Bon.
Et pour une fois, elle a un micro toute seule. Hein.
Je dis que contrairement à certaines personnes, quand elle ouvrait la bouche, c'est parce qu'elle avait quelque chose à dire.
Eh bien, garde le micro et puis, Josiane, je te propose de nous faire tes petits mots de la semaine. Est-ce que tu vas nous dérouter un petit peu? Ricardo n'est pas là, donc va falloir qu'on lise dans les pensées de Josiane. Oui. Nous t'écoutons. Religieusement.
Ah, alors, j'en ai tellement que je vais pas pouvoir tout vous passer.
Les meilleurs.
Sélectionne.
Alors, je suis allée dans un magasin, j'ai acheté quelque chose, le prix était astronomique. Alors, c'est une partie du corps humain.
Alors, les yeux de la tête, la peau des fesses.
Oui, ça a coûté les yeux de la tête.
Voilà. Oui. Par contre, le magasin d'après, ils m'ont donné ça.
Dans le micro.
Dans le magasin d'après, ils me l'ont donné pratiquement gratuitement.
À l'œil. Oh bah je suis connecté aujourd'hui.
Ah dis donc,
j'ai jamais été autant connecté.
Ouais. Bravo.
Aujourd'hui, on peut pas dire ça de lui, mais quand on n'est pas bien installé, qu'on se réveille et tout ça, on n'a pas les
yeux en face
des trous.
J'allais dire quelque chose de plus grossier, plus moderne.
Ah ben, t'en as un autre plus grossier éventuellement. Tu peux y aller parce que je l'ai.
Mais t'oses pas le dire.
Non, tout à fait. C'est pas parmi ceux que j'ai sélectionnés.
Non, ne sélectionne
alors,
pas.
Là, justement, tu te trompes. Donc, tu te mets
le doigt dans l'œil.
Voilà.
On reste, ça va dans des zones.
Oui, ça va.
Comme ça reste ophtalmique, c'est bien, voilà. C'est les vacances, hein, Josiane, je te rappelle. Donc, il y a les enfants qui écoutent aussi. Hein.
Oui, ben, c'est pour ça que certaines, je vais pas les dire, ou je les dirai en dehors du micro. Être très attaché à quelque chose.
Comme à la prunelle de ses yeux.
Oui.
Voilà.
Oh là là, mais dis donc, il est en super forme.
Alors,
hein.
Je crois qu'il va falloir le surveiller.
Ah oui.
Donc.
À l'avoir à l'œil, non?
Au doigt
et à l'œil.
Voilà.
Alors, c'est très ophtalmique comme
ça. Oui. Bon, vous avez des enfants ou des petits-enfants. Quand ils font une bêtise et que vous leur faites pas remarquer,
on leur fait un œil.
Alors Héloïse et Adonis, attention, je vais faire les gros yeux.
Les gros yeux.
C'est pas ça?
Non, parce que là, c'est on ne relève pas la bêtise, donc on ferme les yeux.
On ferme les yeux.
Voilà. On ferme les yeux.
Je redis, hein, Héloïse et Adonis, moi je fais plutôt les gros yeux.
Il y a ça aussi.
T'as fait le geste, mais tu sais, voilà. On n'est pas filmé. Hein.
On va faire les gros yeux.
Bon.
Alors, les enfants, les tiens notamment, ils remarquent beaucoup, beaucoup de choses. Quelquefois, on ne voudrait pas qu'ils voient, mais...
Ils n'ont pas leurs yeux dans leur poche.
Parfait.
Alors là, mais vraiment...
Il
est hyper connecté, là.
J'ai remarqué qu'ils ont toujours une oreille qui traîne, également.
Oui, voilà. Alors, par contre, ça peut peut-être lui arriver de se tromper.
Moi, tout le temps.
Oui. Alors, ça veut dire...
J'ai pas les yeux...
Non, se mettre le doigt dans l'œil.
Parfait. Et puis alors, avec son truc, là, il voulait nous épater tout à l'heure.
Avec quoi?
Nous en mettre plein les yeux.
Plein les yeux.
Oh, c'est dommage, c'était pas mal.
Le couple mystère, là. Moi, j'ai trouvé. Hein.
Jeter.
De la poudre aux yeux.
Voilà.
Bon, ok. Moi, je dis, on voit toujours mieux la paille dans l'œil du voisin que la poutre dans le sien.
Et juste une petite, puisqu'on travaille sur le côté ophtalmo, pourquoi c'est le spécialiste le moins coûteux?
Parce qu'il travaille à l'œil.
Ben voilà, tout simplement.
Je préfère ta phrase de l'entrée quand même.
La dernière.
Il n'est pas bénévole, là.
Parmi vous, personne ne louche?
Non.
Bah, oui.
Donc, vous n'avez pas.
Un œil qui dit merde à l'autre.
Oh
non, par contre, force est de constater qu'on a tous des lunettes, hein, donc on doit pas y voir si clair que ça.
Voilà.
Hein.
C'est vrai.
Bon, bah, je m'arrête là.
Okay. Bon, bah, bravo pour cette chronique. Bravo Raphaël. Alors là, tu nous as ébloui.
J'ai jamais été connecté comme ça avec Josiane. Moi, je vous propose une nouvelle pause musicale et là, vous allez être heureux parce que je vais vous passer une chanson que je suis certain que vous adorez. C'est Les Moulins de mon cœur.
Oh, alors là. Oui.
Ah bah voilà. Bon bah, on l'écoute et on en reparle tout de suite après.
Une de mes chansons préférées.
Donc ça.
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval. Le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton ombre tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sable nos pas s'effacent déjà, et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
C'était donc la chanson de Michel Legrand avec les moulins de mon corps. Alors, le couple mystère a été identifié, mais il y a quand même encore un doute, parce que bah effectivement, hein, Macha Meryl, c'est bien la bonne personne, mais elle a eu plusieurs compagnons dans son existence. Donc, lequel est-ce ? Est-ce que c'est Jean-Pierre Godard, Jean-Luc Godard, est-ce que c'est Michel Legrand ?
Ah bah Michel Legrand, bon. C'était dans les dernières années de sa vie.
Je crois qu'elle le connaît depuis des décennies.
Oui, oui.
Par contre, ils ont vécu ensemble à la fin de la...
Vous avez trouvé, c'est effectivement Michel Legrand
et
Macha Meryl. Ouais. Alors, c'est un couple, on va dire, un peu jet-set, mais que j'ai trouvé très discret, parce qu'il y a peu d'informations sur le couple. Ils se sont rencontrés en 1960, et ils se sont mariés en 2014.
Oui.
Non, en 2011, pardon. Oui, non, en 2014. Enfin, j'ai un doute. Et 2011, ils se sont mariés, et là où je vous disais, j'étais très surpris, c'est de voir qu'ils s'étaient fait naturaliser américain en 2014, Michel Legrand. Voilà. Donc,
J'ignorais complètement.
Voilà. Une curieuse, nouvelle, et il est décédé en 2019. Alors, pourquoi, comment,
il y a
des choses qui m'échappent totalement, qui n'étaient pas explicitées dans les articles que j'ai lus.
Ah oui, ça, c'est, une information que je ne connaissais pas.
Moi, je trouve que Michel Legrand, pendant des années, je me suis dit, on connaît pas son talent, parce que il faisait un paquet de musique de films, enfin bon, il jouait avec des grands jazzmen, avec des grandes chanteuses et tout ça, et j'ai jamais compris. Et je sais que quand il était bien vieux et tout ça, on le voyait souvent à la télévision, là on l'invitait. Peut-être que c'est à ce moment-là, parce que il s'est fait naturaliser américain, peut-être qu'elle veut dire, faudrait peut-être quand même réagir en France là.
Oui, oui, parce que c'était quelqu'un qui était avec un talent extraordinaire, un mélodiste formidable.
Alors, pour le coup, effectivement, il a un talent musical indéniable. Et sur ses premières activités professionnelles, il n'était même pas au générique des films. Alors, est-ce qu'il a participé à Bout de souffle et il n'était pas au générique ? Je ne sais pas vous dire.
Alors ça,
mais c'était relaté dans certains articles. Il a pu participer à la musique de film sans qu'il soit cité. Voilà. Et après. après, effectivement, c'était un grand jazzman.
Ah oui. Plus un talent extraordinaire.
Ouais. Et reconnu par les grands jazzmen.
Oui. Voilà. Et Macha Merrill, pour le coup, elle fait honneur à la mémoire de Michel Legrand. Elle a même décerné un prix Michel Legrand. Et elle a eu une formule que j'ai trouvée assez sympathique. Elle reconnaissait le talent immodéré du personnage. Elle lui disait, t'es un génie. Elle lui disait, non, je suis pas un génie, je suis un géant.
Pas mal.
Il disait, les génies sont morts. Et j'ai trouvé la formule assez curieuse, oui, mais c'était rigolo.
Alors, reconnu après.
Ouais, et alors, de Michel Legrand, vous avez retenu quoi, vous? Les uns et les autres.
Grande musique de film.
Lesquelles?
Oh ben, d'abord, Les Demoiselles de Rochefort.
Bah oui.
Je trouve que c'est... Mais tous les films de Jacques Demy, quasiment. Tous, hein. Je veux dire que... Puis bon, des films américains. Le film où il y a le plus long baiser du cinéma, avec Steve McQueen et Faye Dunaway. Alors, pas Bullitt, hein. Bullitt, ça, c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est une musique de lui, ouais, c'est ça.
Ah oui?
Comment s'appelle, zut? L'affaire Thomas Crown.
Ah oui.
Alors j'étais surpris également de voir qu'il avait participé à lancer des artistes dont Nougaro, qu'on a écouté tout à l'heure. A priori, il a aussi favorisé le talent de Aznavour. Enfin, il était, on va dire, un faiseur de talent.
Un passeur, mais,
dire qu'il a enregistré un certain nombre d'albums lui-même en tant que chanteur, auteur, compositeur. Et à chaque fois qu'il sortait des disques... des vinyles à l'époque, il avait un vrai succès. Mmh. C'était recherché par les... Il avait vraiment un...
Il y a énormément de chansons de Michel Legrand qui ont été reprises par les grands jazzmen. Mmh. Version à la trompette, au sax... Ouais.
On va l'écouter tout à l'heure justement, parce que là je vous ai passé que des hommes en chansons et j'aime pas...
Et puis il a fait une super collaboration avec Nathalie Dessay, dont je viens de retrouver le nom, qui elle aussi est une chanteuse extraordinaire, et je trouvais que leur talent se mêlait parfaitement.
Par contre, il avait peut-être un public, mais peut-être pas grand public.
Comme Nougaro avait un public certain, mais pas forcément un grand public non plus.
Un public de masse, en fait.
Un peu puriste.
Voilà. C'est des gens qui ont marqué...
Et qui ont gardé leur personnalité, qui ont été fidèles aussi à leur personnalité.
Absolument.
C'est pareil. Oui.
Bon. C'est, du coup, Michel Legrand et
Bravo
Macha Merrill.
Bravo de nous avoir fait parler de ce couple.
Bon, pour le coup, je suis content parce que vous avez pas trouvé immédiatement. Contrairement
à
d'habitude.
Non, mais on a quand même trouvé, hein.
Ah oui, c'est pour ça, Michel Legrand en troisième chanson, ça me semblait raisonnable, vous connaissant.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que Michel Legrand avait une sœur qui était chanteuse.
Alors là, vas m'apprendre quelque chose.
Elle faisait partie d'un groupe, de trois ou quatre femmes, hein, dans les années 60, avec des voix qui étaient... Oh, et vous avez déjà entendu des chansons...
C'était pas les collégiennes de la chanson?
Ah non. Non. Les collégiennes de la chanson, ma belle-sœur était collégienne de la chanson. Donc je peux te dire
Alors, j'ai pensé à toi un petit peu en préparant l'émission, Jacqueline, parce qu'il était l'époux de Catherine Michel, une harpiste. Est-ce que ça te parle? A priori, elle est quand même de renommée mondiale.
Catherine Michel, non.
Non.
Ça me dit rien du tout.
Une harpiste vraiment très célèbre qui a enregistré beaucoup de choses. Et j'hésitais à vous passer un duo Legrand Catherine Michel piano harpe.
Je chercherai. Hein,
mais
parce que...
c'est très très sympathique. Alors après, ça manquait de paroles.
Oui, Christine Legrand, donc c'était la sœur, et bon, elle est décédée maintenant. Hein, mais je veux dire, elle faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Double Six.
Ah, je me souviens.
Oui. Et les Swingle Sisters.
Ah, oh, j'ai écouté les Swingle Sisters cette semaine, la semaine dernière. Et j'adore.
Bon ben voilà, une petite chose à découvrir dans une prochaine émission.
Mais sa voix est connue parce qu'elle a doublé des gens qui ne chantent pas.
Les films de Demy.
Ah oui. C'est elle qui chantait.
D'accord.
Dans Les Demoiselles de Rochefort.
Oui, voilà.
Dans Les Parapluies de Cherbourg. Elle doublait. Des gens qui faisaient semblant de chanter, quoi. Bah, oui. Catherine Deneuve, on sait bien, mais c'est pas elle qui chante.
Hein.
Il y avait des talents musicaux dans les gènes, quoi. Bon.
Bah, oui, tous les deux étaient.
Jean-Jacques, est-ce que tu veux nous dire une petite chronique UFC que choisir? Je te sens bien parti, là.
C'est oui ou non?
Alors, je te sens bien parti, moi. Oui ou non? Allez.
Ceci est une chronique UFC que choisir. Pratique. Presque tout se recycle. Tous les emballages peuvent être jetés dans la poubelle de tri. Papier, plastique, métal. Même ceux qui ne sont pas encore recyclés. C'est la consigne générale, valable dans toutes les communes de France. Désormais, les ménages devraient aussi se préparer à séparer ce qui est compostable. La poubelle jaune, comme on l'appelle un peu partout, est normalement affectée aux matières recyclables. Les consignes ont été simplifiées au maximum depuis plus d'un an dans la formule « tous les emballages se recyclent ». Cela concerne tous les récipients ou enveloppes en métal et en plastique de toutes sortes. Ainsi, les barquettes en polystyrène, les pots de yaourt et leur opercule, les bouchons de bouteilles et couvercles de pots, tickets de caisse, plaquettes vides de médicaments, tout cela est destiné au tri. Les industriels sont invités à écarter ce qu'ils ne peuvent pas encore traiter, mais le but est de diriger ces matières vers leur filière, plutôt qu'à l'incinérateur. Il n'est pas utile de nettoyer les contenants, mais il doit être vidé et séparé. Les collectivités commencent à organiser la collecte des déchets organiques, compostables. Cela ne concerne pas tous les produits alimentaires. Évitez les morceaux de fromage, viande ou poisson qui attirent les nuisibles. Ce sont donc principalement les débris végétaux ainsi que le marc de café, de thé. Le bac des ordures ménagères, proprement dit, devrait recevoir alors seulement les restes alimentaires carnés. Tous les résidus de nettoyage, maquillage ou protection souillée. Les blocs de polystyrène préservant les marchandises transportées en carton de livraison, tous les objets de vaisselle cassés sont destinés à la déchetterie. Les appareils électriques et électroménagers sont repris par les magasins de vente de ces articles.
Merci Jean-Jacques. Bon, effectivement, c'est Lavoisier qui disait « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ».
Oui, mais bravo. Quelle puissance.
C'est quoi aujourd'hui, ça?
Ah, bah là, il y a une aura sur sa tête. Alors, c'est formidable.
J'avais entendu une petite émission à la radio par rapport aux déchets, où il disait que les petites communes rurales et tout ça allaient augmenter énormément le prix de leur ramassage des déchets pour inciter les gens à trier et tout, parce que ça leur coûte très très cher. Bah,
il faudrait peut-être qu'ils soient pédagogiques, parce que nous, dans mon coin, ils limitent, au lieu que c'était, ça, autrefois c'était toutes les semaines, maintenant c'est tous les 15 jours.
Oui.
Donc ils pourraient peut-être le dire, peut-être, je crois qu'il y a besoin d'explications.
Mais moi ce que je dis par rapport à ça, c'est que trier ne veut pas dire forcément recycler. Hein, on peut trier. Mais moi, je prends l'exemple au niveau de la déchetterie. Tu as évoqué la déchetterie. Ben, moi, je suis horrifié de voir tout ce qui va dans le tout venant. Oui. Sachant que le tout venant, c'est enfoui. Quand on voit ce qu'on met dans la benne tout venant, c'est impressionnant. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut d'abord, c'est moins consommer.
C'est, bah, c'est clair.
C'est en amont qu'il faut travailler.
Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne génère pas.
Exactement. Et je pense que ça n'empêche pas qu'il faut faire un gros travail derrière de ce qu'on produit. Mais le plus grand des chemins, c'est de prendre un pas, hein, et dans la bonne direction si possible. Je pense qu'il faut qu'on travaille plus sur moins de déchets.
C'est certain, mais ça, c'est plutôt les fournisseurs qui devraient faire attention, parce que quand tu vois que tu achètes des
yaourts... Non, c'est le consommateur.
Le consommateur qui...
Oui, mais dans les grandes surfaces, quand tu veux acheter des yaourts par 12, par exemple, t'as forcément un emballage carton autour.
Oui, mais
est-ce que c'est réellement nécessaire?
L'emballage carton, il est facilement recyclable.
J'entends bien, mais on pourrait s'en passer.
Mais par exemple, tout ce qu'on peut mettre dans des verres, dans des récipients en verre, qui peuvent ensuite être lavés, nettoyés, passer, parce que même le verre qui est concassé, il faut beaucoup d'énergie pour le retravailler derrière, etc.
Bien sûr.
Donc là, il y a peut-être,
il y en a qui le font.
Parce que bon, sauf erreur de ma part, il y a quand même une loi maintenant qui interdit le truc du jetable et tout ça maintenant dans les McDo, dans les fast-food. Normalement, c'est de la vaisselle. Et c'est plus des trucs jetables. Par contre, tu vas en grande surface, t'as un rayon complet avec les trucs, les gobelets en carton, les assiettes en carton, les machins.
Mais regardez, moi je
comprends pas.
Rentrer dans une grande surface et avec les yeux, avec les lunettes, en disant, je regarde tout ce qui va être déchet. Et puis après, on peut aller regarder dans, vous verrez plus les choses pareilles. Je peux vous dire que c'est impressionnant.
Bah, on voit plus de déchets que de produits,
en
définitive.
Bah oui, en fait, hein, tout.
Non, mais après, aujourd'hui, le problème, c'est pas le recyclage, hein, c'est le coût du recyclage.
Bah, il y a le coût.
Parce que, alors, effectivement, tu le disais très justement, aujourd'hui, les méthodes ultimes, c'est l'enfouissement ou l'incinération.
Dans certains cas.
Et c'est un problème.
Voir le déport dans d'autres pays.
Et en Afrique, j'y viens, en Afrique, ils ont réussi à inverser certains processus de production. production et ils font du carburant à partir de sacs plastiques.
Oui.
Je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à tout décomposer et recomposer de la même manière. Sauf que on sait le faire, mais ça coûte une fortune. Donc on n'est pas disposé à payer le réel coût de ce que l'on consomme.
On nous sortira après que la combustion du plastique pollue.
Mais justement, là, en l'occurrence, il n'est pas consumé, il est décomposé pour être réorganisé sous molécules de carburant. Et c'est génial, c'est génial. D'un hydrocarbure, on passe à un sac plastique. Du sac plastique, on repasse à l'hydrocarbure.
La précision est bonne. Hein,
il y a des gros progrès de
fait. En tout cas, il y a des choses à faire. Et c'est vrai que l'industrie du déchet a de l'avenir. Bon. Ça, c'est sûr.
Allez, je vous propose une nouvelle petite pause musicale, alors avec une reprise d'une chanson de Michel Legrand par la chanteuse Karen Anne, que je ne connais pas parfaitement, que j'ai découvert.
Karen Anne, c'est elle qui a composé avec Benjamin Biolay les deux derniers albums d'Henri Salvador.
Bon, bah voilà, moi je la découvre en préparant l'émission, j'ai voulu partager ça avec vous. On l'écoute et on se retrouve tout de suite après.
Toutes portes ouvertes en plein courant d'air, je suis une maison vide sans toi, sans toi, comme une île déserte que recouvre la mer. Mes plages se dévident sans toi, sans toi. Belle en pure perte, nue au cœur de l'hiver, je suis un corps avide sans toi, sans toi, rongé par le cafard, morte au cercueil de verre, je me couvre de rides sans toi. Si tu viens trop tard, on m'aura mise en terre. Seule, laide et livide, sans toi, sans toi, sans toi.
Donc, c'était Karen Anne avec Sans toi. Bon.
Mais personne n'a entendu.
Ça se dissipe.
Je suis soufflée.
Bon, pendant la chanson, je faisais remarquer au chroniqueur que sur la tombe de Michel Legrand, qui est décédé en 2019, il y a le nom de Michel Legrand et à côté celui de Macha Merrill qui n'est pas encore décédé. Et ça m'a paru suffisamment singulier pour vous le signaler. Ça se passe au Père Lachaise et c'est la première fois que je voyais ça. Est-ce que vous
unis
avez...
Unis pour le meilleur et pour le pire.
Ouais. Après, c'est...
Bah, le pire, c'est sur Terre. On espère qu'après, ce sera mieux.
Oui. C'est ce qu'on peut
espérer. On en parle plus tard.
Tu reviendras nous dire ça ou je reviendrai te chatouiller les doigts de la
C'est ça.
T'as eu raison.
C'est ça.
Jacqueline, est-ce que tu veux nous faire ta petite chronique culturelle de qu'est-ce qu'il y a de beau à voir dans les 15 jours à venir?
Rien à voir avec le Père Lachaise.
Okay. Alors, je vous encore que la visite des cimetières, oui. C'est très inspirant.
Il y a des cimetières qui se visitent, hein, bien sûr.
Mais là, non, on va.
Et surtout le Père Lachaise avec les célébrités.
Ah, ça, c'est certain. Mais là, non, je vous parle d'une exposition accessoire, c'est l'essentiel. Ah ah! Que se cache derrière ce titre? Eh bien, tout simplement, une exposition sur des sacs, des gants, des ombrelles, des tabliers, des ceintures, des éventails, des cannes et bien d'autres objets du quotidien. Les accessoires qui complètent une tenue portent bien mal leur nom.
Essentiels sur le plan fonctionnel, esthétique ou symbolique, ils sont très révélateurs d'une époque et du mode de vie d'un groupe social. Donc, c'est une exposition à voir au Poncé, au château précisément des Poncé, des coiffes, 4 rue Charles de Gaulle. Le tarif est de 5,30 € et vous avez l'ouverture tous les week-ends d'avril, mai, juin, septembre et octobre. Et en juillet et août, c'est ouvert tous les jours, sauf le lundi. C'est une exposition du 9 mai au 21 septembre. Voilà, ça c'est pour un premier sujet. Et une deuxième exposition de peinture qui s'appelle « Échappée de Loire ». Ce sont des peintures et des sculpteurs, un collectif d'artistes, peintres et sculpteurs de l'association des Poncé. Ça se trouve 13 rue Boutreux au Poncé. C'est non loin justement du château des Poncé des coiffes.
Faut faire d'une pierre deux coups. Mmh.
Voilà.
Et alors ce sont...
Et l'accès est gratuit. Oui.
Ce sont les peintres de la Loire seulement.
Voilà,
ou une c'est plus.
Non, non. Exposition Échappée de Loire.
Échappée de Loire.
Voilà,
très intéressant.
C'est tout pour aujourd'hui.
Merci Jacqueline. Bon, pour les auditeurs, ici on a un chroniqueur qui se distingue par son accessoire. On ne le voit jamais sans.
Oui, oui. Et pour cause.
Et il va au musée de la coiffe lui aussi. Hein.
Non, non. Non mais c'est vrai que j'étais au musée du chapeau par contre. Ouais. J'adore les chapeaux.
Je ne crois pas t'avoir vu arriver sans chapeau, Marc.
Mais oui, mais une fois qu'on a goûté au chapeau, on ne le quitte plus.
Hein, c'est vrai.
Et on fait mieux en été qu'en hiver.
Et en plus, j'aime beaucoup les chapeaux. Bien.
Ouais. Il y en a qui, on dit qu'il y en a qui portent le chapeau, d'autres la casquette, oui, le bonnet.
On a des têtes à chapeau.
Moi, j'ai une tête à chapeau. Mmh. Voilà.
La casquette.
Moi, j'ai un physique de radio.
Mais quand j'ai visité le musée du chapeau.
Il est où ce musée?
C'est dans le sud de la France. Le nom exactement, je pourrais te le retrouver pour Jacqueline. Mais le chapeau de feutre.
Oui.
Ce qu'on appelle le chapeau de feutre, oui, hein, que je porte
d'ailleurs,
en hiver.
C'est très difficile à faire.
C'est très difficile à faire. C'est très compliqué à faire. Le savoir-faire.
C'est autre
on
chose
l'avait
que
en France.
Le borsalino, c'est pas ça?
Ah oui.
Ah, ça n'a rien à voir.
Oui, non, ça n'a rien à voir. C'est le chapeau traditionnel en feutre.
D'accord.
Qui a une performance d'ailleurs étonnante, hein, à la pluie, à la chaleur. C'est très résistant.
Là, c'est
un chapeau de paille.
Mais, là, c'est le chapeau de paille d'Italie.
Voilà. Et donc, on avait un grand savoir-faire, hein, parce que on regarde des images ou des années du début du 20e siècle, mmh. avant 39-40.
C'est vrai.
Tous les hommes portaient des chapeaux.
Les femmes aussi.
Les femmes aussi, etc. Et donc, malheureusement, ça s'est tombé un petit peu en désuétude.
Ah, ça revient.
Et ça revient, mais pas tant que ça quand même. On le voit un peu.
Dis donc, Marc, pour faire revenir à la phrase du début, tu voudrais pas faire du bénévolat au musée de la coiffe, hein?
Pourquoi pas.
D'ailleurs, il est très intéressant ce musée.
En tout cas, je dis bénévolat, chapeau.
Bravo.
Non, mais c'est passionnant.
On te tire notre chapeau.
Et maintenant, les chapeaux, c'est des chapeaux italiens.
Et comme diraient les mousquetaires,
c'est
chapeau bas.
Les Américains. Les chapeaux que j'ai, moi, c'est des chapeaux américains.
T'en as combien?
Oh, j'en ai 5 ou 6.
C'est tout?
C'est tout. Bon, après, on les élimine. Hein, puis, en fait, ils vieillissent souvent, c'est par la sueur, la transpiration,
oui.
Fait que ça les abîme.
Bon.
Donc, voilà,
et t'as toujours porté le chapeau?
Non. Non, pas tout le temps. Hein, ça dépend des situations. Mais,
non.
j'ai porté le chapeau quand j'en ai ressenti le besoin, notamment vis-à-vis du froid et vis-à-vis du chaud. Quoi.
Oui, par rapport.
Et c'est aussi... notamment par rapport au soleil, on dit le chapeau de paille, mais ça peut être... par exemple, les Stenson américains, dans la notice de l'image de marque du produit, ils disent bien que ça participe à la prévention du risque du cancer de la peau, parce que souvent les cancers justement arrivent au niveau de la tête, parce que c'est les rayons lumineux frappe au niveau de la tête.
Mais le Stetson, c'est en quoi? C'est en feu?
Le Stetson, c'est du, il y a différents
cuir,
types. Ils font de tout, mais le Stetson du cowboy, c'est le Stetson en feutre.
Bon.
Par contre, excuse-moi, il y avait un docteur qui disait à mon père qu'il valait mieux, en ce qui le concerne, avoir un chapeau l'hiver que l'été. par rapport à la circulation du sang. Ah. Parce que l'été, les artères veulent se dilater et arrivent encore un petit peu, tandis que l'hiver, par le froid, elles se rétractent brutalement et ça peut entraîner de gros problèmes de sanguin.
Je sens que je vais avoir du mal à danser mon dernier morceau de musique. Moi. Bon, allez, je vous propose d'écouter Stacey Kent, qui est une chanteuse de jazz et qui reprend une chanson aussi de Michel Legrand avec la valse des Lilas.
Oh, et tu le mets en 45 tours?
Bah, bon. Non, pas là.
Qu'un regret, sans un ami et sans autre secret qu'un pot de larmes. Pour ces quelques pages de mélancolie, tu as fermé le livre de ta vie et tu as cru que tout était fini. Tous les lilas de mai n'en finiront jamais de faire la fête que des gens qui s'aiment. Tant que tout n'aura le temps jusqu'au dernier printemps. Le ciel aura 20 ans, les amoureux en auront tout autant. Que des gens qui s'aiment. Tant que tout n'aura le temps jusqu'au dernier printemps. Le ciel aura 20 ans, les amoureux en auront tout autant.
Savent qu'il y a des gens qui réfléchissent et qui...
Bon, les amis, ça y est, ça va être déjà l'heure de nous quitter. Donc, on va se souhaiter une bonne semaine. Merci Jean-Jacques.
Merci.
Merci Josiane.
On vous souhaite de prendre autant de plaisir à nous écouter que nous à faire cette émission.
Merci Jacqueline.
Merci à vous.
Et puis merci Marc.
Merci, merci Raphaël. Et prenez soin de vous.
À bientôt.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, sur les chemins, sur les chemins, à bicyclette, à bicyclette, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand.
1.5 FM.